Hallo, folgen Sie dem Reiseführer. Suivez le guide, vous invite à découvrir la 18e ville allemande. Et pourtant, elle fut capitale de la Bundesrepublik, Bonn. Des enregistrements réalisés lors d'un séjour qui faillit tomber à l'eau du Rhin en raison du premier confinement, mais qui se sont finalement concrétisés en juin 2020. Nous sommes en Rhénanie du Nord-Westphalie, le land allemand le plus peuplé et doté du plus fort poids économique, en partie grâce à la Ruhr, abritant 23% de la population allemande. Bonn n'est qu'à 25 km de Cologne, la ville natale de Konrad Adenauer, et à vol d'oiseau, à 400 km au nord-est de Paris.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Entre 1949 et 1990, Bonn sur les bords du Rhin fut donc la capitale de la République fédérale d'Allemagne. Depuis, elle garde un statut de ville fédérale unique dans le pays. Nous visiterons deux maisons dans ce Suivez le guide dans la périphérie sud de Bonn, la maison de Konrad Adenauer à Rhöndorf et la maison de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne par laquelle nous commençons.
Nous allons tout de suite faire la connaissance de Christophe Mühlberg, avec qui nous allons découvrir cette maison de l'histoire et le quartier. Mais peut-être Christophe, avant d'entrer, peut-être un petit mot. Alors merci de nous guider. Mm-hmm. Vous êtes ce qu'on appelle un greeter.
C'est ça.
Bonn greeter, ça mm-hmm. veut dire que c'est tout à fait bénévole. Vous avez d'ailleurs un badge de Bonn greeters.
Oui.
Ça veut dire que vous acceptez bénévolement de guider des visiteurs.
Oui, à travers cette association de greeters qui est international. Donc même à Bonn, il y en a au moins une soixantaine de personnes qui participent. Et moi, j'ai toujours dit, je voudrais bien faire en français ou en anglais ou même espagnol, hein, s'il y a un besoin. L'allemand, il y en a
suffisamment.
Assez.
Nous allons entrer dans la maison de l'histoire, mais peut-être avant d'entrer, un petit mot de ce quartier. On n'est pas ici dans le cœur historique de Bonn.
Pas du tout. On est dans la région qui a été développée après la guerre et après la constitution du siège du gouvernement d'abord et puis de la capitale, dans un moment où il paraissait garanti que Bonn allait rester capitale. Le chancelier Kohl a promis à la ville de Bonn, un musée sur l'histoire. Mais il parlait de l'histoire de la République fédérale. En effet, c'est ouvert un peu plus tard peut-être que les autres, mais en 94, normalement, on écrit hein, la date
d'ouverture. Haus der Geschichte. Quand vous dites ça, ça veut dire qu'au départ, que Bonn soit la capitale de la République fédérale, c'était un CDI et pas un CDD. Finalement, ça a été un CDD jusqu'à la chute du mur, jusqu'en 1990.
Hein. Il y avait une décision sur l'endroit, c'est l'emplacement de la capitale, au moment où le mur était tombé. Et là, avec une faible marge, hein, le Parlement a décidé en faveur de Berlin. Et seulement là, il était clair que Bonn allait abandonner cette fonction dans l'ensemble de l'État fédéral.
Mais sinon, Bonn aurait pu être la capitale de toute l'Allemagne ?
Oui.
Oui.
Oui, oui. Rester.
Hein? Rester.
Ce qui a un grand désavantage, puisque nous sommes ici à gauche du Rhin. C'est très à l'ouest du pays, alors que Berlin est à l'est. Hein? C'était une méthode d'intégrer l'Est dans l'État fédéré ou uni. Ça a un peu fonctionné, mais ça aurait mal fonctionné avec Bonn. Bonn est beaucoup trop éloigné de la ex-DDR.
C'est ça. Par exemple, si on dit Dresde, on est à combien de kilomètres de Dresde, ici à Bonn ?
Si, 600.
600. Et Berlin, on est à combien de kilomètres ?
Oui, c'est à peu près la même chose.
À peu près pareil.
Dresde est plus au sud,
ah oui, plus au sud.
Que Berlin, mais c'est à peu près la même chose.
Et la frontière à l'est, c'est quoi ? C'est la frontière polonaise ?
Oui, oui, de Berlin, mais c'est à 60 kilomètres, c'est pas beaucoup.
Donc voilà, tout ça a fait que Bonn n'est pas restée la capitale. mais nous allons entrer dans l'histoire avec cette maison de l'histoire dans laquelle on peut, Christophe, passer beaucoup de temps, hein, si on a envie. Et l'entrée est gratuite pour tout le monde.
Oui, oui.
Il faut mettre le masque. Unsere Geschichte Deutschland, notre histoire Allemagne depuis 1945.
Organized resistance in Bonn is over. Birthplace of Beethoven, Bonn has always prided itself on its bridge. The stately entrance to the bridge remains. The rest is a broken-backed ruin. The bridge now goes under, not over the Rhine. Here are towns and villages where nothing worth anything is left.
Est-ce que les deux Allemagnes, Christophe, sont vraiment nées en même temps, la République démocratique allemande et la République fédérale allemande?
Un peu de différence. Parce que chacun savait de l'autre, hein, qu'ils allaient créer un État. Comme ne voulait pas, hein, pour ne pas gâcher l'idée d'unité, hein, d'unification. Mais il était clair qu'à l'ouest, hein, ce chancelier Adenauer voulait absolument avoir son État à l'ouest, alors que les communistes à l'Est voulaient, eux aussi, avoir leur État à eux. Donc, je ne sais pas, entre 2 ou 4 semaines de différence, les États ont été créés en 49. C'est la date de naissance.
Et les institutions, enfin, de l'État, de la République fédérale allemande, se sont tout de suite installées hors du centre de la vieille ville de Bonn.
Non.
Une fois que Bonn a été choisie, bien sûr.
Oui, non, il y avait peu de place.
Oui.
Et le centre de Bonn était détruit, donc il était difficile de trouver de la place. On a commencé avec quelques bâtiments, plutôt au début des années 50. Hein, sinon, il n'y aurait pas eu de la place, hein, pour le gouvernement. Mais dans le vrai centre de Bonn, qui était mal réparé à l'époque, il n'y avait rien. La capitale était Berlin, mais elle n'était pas accessible comme telle. Sans ça, Berlin aurait resté...
Aurait retrouvé son statut de capitale.
Oui, tout de suite, hein, tout de suite après la guerre. D'un côté, une partie, le secteur russe, hein, appartenait à la DDR naissante. Et les trois autres, hein, français, anglais, américains, n'acceptaient pas que Berlin soit une capitale comme enclave, parce que c'était dans la DDR.
Et donc Berlin a bien été la capitale de la DDR.
Chez nous, on disait toujours Ost-Berlin.
C'est ça, Berlin-Est. Hein, ouais.
On ne voulait pas dire Berlin.
C'est vrai que logiquement, même en ayant deux pays, on aurait pu avoir Berlin-Ouest, capitale de la République fédérale, et Berlin-Est, capitale de la République démocratique. Sauf qu'à Berlin-Ouest, il y avait les Américains, il y avait les Français, il y avait les Anglais, il n'y avait pas que les Allemands.
Hein. C'est ça. Il y avait 4 secteurs. Le russe était le plus grand, mais les 3 autres étaient plus grands que le secteur russe.
Anfang März 1945 sind die großen Schlachten im Westen schon geschlagen. Nach dem Durchbruch bei Jülich und Düren rückt die amerikanische Armee in breiter Front auf den Rhein vor. Die Weiterführung des Krieges ist sinnlos geworden. Sie bedeutet Blutvergießen und unermessliche Zerstörungen. Immer mehr deutsche Soldaten wählen die Gefangenschaft. Nach kurzem, hinhaltendem Widerstand. Ihr zahlenmäßig und materiell weit überlegener Gegner will gerade in den letzten Kriegswochen eigene Verluste vermeiden. Er setzt seine Truppen nur in erdrückender Übermacht ein.
Alors pour donner une idée à celles et ceux qui... D'abord, on va dire que ce musée de l'histoire, c'est un musée qu'il faut visiter même si on n'est pas allemand. L'histoire de la République fédérale allemande, ben, nous intéresse. C'est aussi l'histoire d'une partie de l'Europe.
C'est ça.
Et puis, qu'elle est au niveau de la muséographie, on est plutôt dans le grand spectacle quand même ici. Des grandes salles hautes avec énormément de reconstitution. Ça commence avec la guerre, enfin, etc. Des très grandes photos. Donc c'est un musée vraiment de... C'est un grand bâtiment, mais un musée de grands espaces.
Hein. Oui, et une exposition... disons, de notre vue de l'histoire. Hein. Par exemple, il est vrai que Adenauer...
Donc là, il y a une grande photo de Konrad Adenauer.
Oui, était chancelier pendant 16 ans, je pense. Hein. Ce monsieur était âgé. Il était très difficile, après la guerre, de trouver une jeune génération qui aurait pu faire la politique pour un nouvel État. Donc, il était vieux.
Est-ce que ça veut dire que la jeune génération avait... plutôt sympathiser avec le régime nazi à ce
ça,
moment-là.
Ou mort.
Ou mort.
Donc, il y a vraiment très peu. Celui-là, il avait été maire de la ville de Cologne. C'est un colonel. Hein. Il n'est pas de Bonn. Mais il voulait que Bonn soit la capitale. Et puis après, il était député au Parlement à Berlin. Il était plus jeune. Mais au moment de l'histoire, après la guerre, il voyait la chance, et d'autres ont suggéré, qu'il fasse le travail de premier chancelier. Alors il dit, oui, je vais faire.
Oh, ouais. C'était pas un jeune homme, mais il a l'œil vif hein, quand même.
Hein. Il avait 73. 13
ah,
ans.
Ah oui.
Et il y a là le président, un personnage plus sympathique, mais le président...
Une peinture du président. Mais
d'après nous, n'est pas le chef du gouvernement.
Hein. C'est ça. Mais vous savez, si on fait un micro-trottoir en France de donner le nom du président allemand, je serais même incapable, moi, de vous le dire. Et même si on a déjà entendu son nom, on ne l'a pas retenu. Hein.
Ah,
il s'appelle comment ?
Heuss.
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 Ah,
mm-hmm.
Ouais.
Il y en a eu beaucoup hein, depuis. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait un bon travail, hein, M. Steinmann.
Steinmeier. Mais on ne les connaît pas, nous, en France. Mmh, si on donne un nom, on dit c'est Angela Merkel, mais pas...
Ouais. Oui, elle est chef de gouvernement.
De gouvernement, mais pas président.
Elle compte.
Oui. Donc là, voilà une photo avec Pierre Mendès France, Konrad Adenauer et les autres, je ne sais pas.
Moi aussi, j'ai oublié.
Im September 1962 besucht Staatspräsident de Gaulle die Bundesrepublik.
Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehen, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege.
Nous nous arrêtons, Christophe, devant une photo. Alors, il y a une grande photo, il y a d'autres photos aussi. Tout le monde reconnaît ces deux hommes. Nous parlions de Konrad Adenauer, il est sur cette photo, avec un autre personnage, un petit peu plus grand, alors grand par la taille et qui a un grand nez aussi, c'est Charles de Gaulle, le général de Gaulle. Donc ça se passe ici, à Bonn, la visite du général de Gaulle en 1962.
Et il y avait une émotion énorme hein, dans la population hein, que le représentant de la France, hein, voisin de France, venait saluer. Il a adressé la population. Hein. Il n'a pas parlé n'importe quoi. Il a même parlé allemand, puisqu'il avait appris, en jeune homme, il avait appris allemand. Et il sortait des phrases d'une manière très solennelle. Et l'émotion était absolument énorme. Oui.
Donc ils sont là. Alors il y a la photo où ils se tiennent par le bras, et là ils sont sur le point de faire une accolade. Alors de faire quoi?
C'est ça, c'est ouais. Ça. Hein. Ça veut dire nous sommes frères. Hein, le franco-allemand, c'est l'amitié franco-allemande. Hein. Les deux voulaient. Adenauer, c'était évident puisque Adenauer était orienté vers l'Ouest, c'est-à-dire la France. Mm-hmm. Hein. C'était son vrai voisin, plus que les États-Unis. Alors, de Gaulle a surmonté ses réserves parce qu'il préférait l'Allemagne à l'Angleterre et surtout les États-Unis. Il voulait dominer l'amitié franco-allemande, ce qui était naturel puisqu'il était plus fort que l'Allemagne ou Adenauer. Il voulait symboliser tout cela. Hein. Donc, il avait le sens de symbolique.
Et la photo en dessous, donc ils sont sur la place du marché à Bonn, on reconnaît, moi je le reconnais puisque j'ai vu l'hôtel de ville qui est juste derrière avec le balcon de l'hôtel de ville et eux sont devant dans une voiture et sont debout dans la voiture et ils saluent la foule. Voilà, De Gaulle et Adenauer.
Et ici, ils visitent tous les deux la cathédrale de Reims.
Mmh. Ah.
Donc c'est la visite à Adenauer chez De Gaulle avant ça.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Suivez le guide et dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, au sud de Bonn, nous découvrons la HDG, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, avec un Bonn Greeter, Christoph Mühlberg.
Can you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine.
Et puis là, alors là, on reconnaît aussi, et ça, c'était en Allemagne. Et là, tout le monde reconnaît Elvis Presley, hein,
voilà.
Quand il était militaire en Allemagne. Et on arrive au bar, bar années 50.
Oh, steht allein im Haus.
Christophe, quand vous parlez des hommes politiques allemands, donc pas d'aujourd'hui, hein, nous sommes toujours dans ces années-là, les années après la constitution de la République fédérale, vous en parlez comme des vieillards.
Vieillards. Le premier chancelier et le premier président étaient des vieillards. Nous sommes devant une photo où il y a le deuxième président et le deuxième chancelier, tous les deux vieillards.
Et leur nom, c'était ?
Lübke et Erhard, qui succédaient à Adenauer.
Adenauer. Oui, ils ont quel âge, là ? Ils sont au moins septuagénaires, là.
Oui.
Au moins.
Hein. Ici, il y a une certaine ouverture. Hein. Il y a des vieillards ou des vieux hommes, par exemple ce président Lübke, mais il y a de plus jeunes ici, le Brandt.
Oui, on reconnaît Willy Brandt, un jeune Willy Brandt.
Il était ministre de l'Extérieur à l'époque.
Et une femme.
Oui, la première. Obama, Käthe Strobel, oui.
C'est
social-démocrate.
Elle était ministre ?
Oui, elle était. Ça, c'est en 1967.
Donc, il y avait une femme ministre en 1967.
N'était pas la première, peut-être la deuxième, je ne sais pas. Mais ici, il y avait des gens qui ont fait des histoires ou des scandales. Franz Josef Strauss, hein, qui était un barbare de Bavière. Karl Schiller, le meilleur économiste qui n'a jamais existé dans le gouvernement allemand. Willy Brandt, bien sûr. Non, des personnages importants en relation avec Carlo Schmitt, né en France, celui qui a traduit Baudelaire, etc., hein, Carlo Schmitt, on aurait bien voulu qu'il soit président de la République. Hein. Ça aurait été un personnage, mais il était social-démocrate. Hein. Mm-hmm. Donc il n'avait pas une majorité à sa faveur.
Là, nous sommes vraiment dans les années 70. C'est aussi l'époque du cinéma érotique allemand. Il y a une affiche de Helga, réputée hein, quand même à l'époque.
Je vais faire un petit commentaire. Qu'est-ce qu'ils disent là ? Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren, ça veut dire en dessous des talars, qu'est-ce que c'est la robe du juge, hein ? La robe du juge, talar. Il y a l'odeur, et qu'est-ce que c'est ? Nilan. Nazisme. Le Troisième Reich était, dans le parler des nazis, le royaume des mille années. Hein, okay. Alors, ils disent, hein, les étudiants, et ça aussi les talars, ça veut dire les universitaires, hein, le président de l'université, etc. Il y a l'histoire, mais l'histoire nazie. Hein, c'est en 68 qu'on a fait ça.
Ça ne veut pas dire que c'était d'anciens nazis.
Non. Ils ne veulent pas dire que c'était eux-mêmes exactement des nazis. Peut-être ils étaient.
Peut-être certains.
Mais ce qu'ils faisaient,
c'était
la pratique était teintée hein, du nazisme, donc des mille ans. Hein. Il faut comprendre les mille ans. Ça a déclenché les protestations étudiantines à Berlin. Hein. Un étudiant tué par un policier. Ici, Rudi Dutschke, un représentant des étudiants, était tué, ou plutôt mutilé, par un homme. Hein. Et c'est vraiment sa bicyclette et sa serviette. Mm-hmm. À Berlin. Hein. Rudi Dutschke, auf der Straße, niedergeschossen. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est pas tué, mais...
On l'a tiré dessus.
Rudi Dutschke est mort en 1979 des séquelles neurologiques de la tentative d'assassinat dont il fut victime en 1968. Il avait 39 ans.
Du weißt, wir haben es versucht, doch wahrscheinlich nicht genug. Irgendwie sind du und ich sowas wie verflucht. Irgendwie sind wir nicht gleich. Sieh uns doch nur an, du verdienst eine bessere Frau und ich einen besseren Mann. Wie oft hab ich daran gedacht, es nie gemacht. Ich habe es irgendwie vorher nie geschafft. Vielleicht fehlte der Mut, vielleicht fehlte auch die Kraft. Doch jetzt fehl ich mir selbst mehr, als du es jemals hast. Lieber so, als zu spät. Besser, wenn du jetzt gehst. Viel zu lange schon tun wir uns weh. Lieber so, als zu spät.
Folgen Sie dem Reiseführer, suivez le guide au musée de l'histoire de la République fédérale allemande avec Christophe Mühlberg.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Auf der richtigen Welle bei Radio Bonn Rhein-Sieg.
Là, on est, il y a tout un mur d'écran des grandes séries télé allemandes.
Hein. Ça, c'est Rudi Carrel, c'est ouais. un néerlandais qui avait une manière d'amuser les gens.
Et puis les séries télé d'Eric, etc. Continuons dans ce parcours dans la maison de l'histoire et nous arrivons face à une photo. Alors c'est une photo, on reconnaît bien Ronald Reagan, mais celui qui est en face de Ronald Reagan, c'est Christophe, un héros pour les Allemands.
Gorbatchev, mais pour tout le monde.
Oui, enfin, pour le monde, oui, bien sûr. Mais en Allemagne, ça a été.
Oui.
L'impact a été peut-être plus fort qu'ailleurs parfois.
Il était le plus fort parce qu'il a rendu possible l'unification de l'Allemagne.
Ouais.
On donne le crédit pour cela à Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev.
Il est revenu souvent en Allemagne ?
Oui, parce qu'il avait une certaine amitié avec Kohl et il était détrôné à l'Union soviétique.
En tout cas, c'est un citoyen d'honneur de l'Allemagne, ça c'est sûr.
Tout à fait. Mm-hmm. Hein. Et il était comme Kennedy, comme de Gaulle, sur le marché de Bonn, hein, parlant de l'escalier.
Ah oui, c'est ça, sur le balcon.
Donc là, c'était l'agonie quand Gorbatchev est venu. Hein. Mais moi, je répète toujours qu'une seule personne a été, pas seulement deux fois homme de l'année, mais homme de la décennie, Gorbatchev. Donc les Américains étaient fous aussi de Gorbatchev. Ça déplaisait les Russes, mais c'était comme ça.
Vous savez, la chute du mur de Berlin n'est pas l'événement le plus important. C'est un symbole de l'époque et de tout ce qui s'est passé alors. 89 a été une année charnière. En Union soviétique ont eu lieu des élections libres, les premières en 1000 ans d'histoire de la Russie. Le Parlement a commencé à fonctionner, des partis politiques se sont créés, c'était le début du pluralisme. En Europe centrale et orientale, il y a eu les révolutions de velours, à la fois reflet et prolongement de la perestroïka. Ces événements étaient en préparation depuis 4 ou 5 ans. C'était un aboutissement logique.
Et nous passons entre les pieds des pylônes de la porte de Brandebourg, dans la partie évocation de la chute du mur.
Ça, c'est le jour de l'unification. Ouais. 3 octobre 1990. Président et chancelier.
Donc là, c'est bien Helmut Kohl.
C'est ça.
Où étiez-vous, Christophe, ce jour-là ?
À Bonn. Ah. J'étais à Bonn. Mmh.
Vous ne vous êtes pas dit, je prends ma voiture et je vais à Berlin ?
Oh non. Enfin, je trouvais que c'était important. Mais ce qui nous a enthousiasmés, c'était la chute du mur. La fête de l'unification, moins.
Mais vous ne vous étiez pas dit, je veux être à Berlin dans ce moment historique.
Mais il y avait beaucoup d'étrangers.
Beaucoup d'étrangers.
À l'époque, à Berlin, qui étaient étudiants
ou
scientifiques, etc. qui étaient vraiment surpris. Ils n'avaient pas pensé à cela, hein, que pendant leur séjour de 6 mois, 9 mois, le mur allait tomber. Hein. Mm-hmm. Donc, eux ont parfois écrit des livres ou donné des témoignages là-dessus.
Et puis, il y a des étrangers qui sont allés quand ils ont entendu que le mur tombait aussi, qui ont pris la voiture et filé à Berlin. Plus
enthousiaste que moi. Moi, j'étais vraiment enthousiaste de l'unification parce que j'avais pensé que ça allait se passer dans ma vie. Hein.
Ouais.
On ne savait rien. J'avais 40 ans à ce moment-là. Hein, et chute du mur, presque 40 ans. J'avais toujours pensé que ça ne peut pas durer à l'éternité. Hein. Il y aura un moment où l'unification est inévitable. Mais je n'aurais jamais dit unification. J'aurais dit la chute du mur avec deux États allemands. Hein. Ça, c'est un grand débat en Allemagne. Ouais.
Et puis enfin, l'ouverture. Donc là, on est bien après la chute du mur. L'accueil des migrants ici en Allemagne, hein, qui sont arrivés très, très nombreux. Hein. C'était en combien ? 1 million, c'était ?
Oui. Dans la première année de 2015, c'était plus de 800 000. Mm-hmm. Et puis l'année suivante, donc tous les deux ensemble, peut-être 1 million, avec une politique chancelante, hein, mm-hmm, entre la pitié ou l'accueil et le refus.
Et on voit un vieux bateau délabré comme ça, où devait, qu'on peut imaginer avec énormément de...
Ce bateau a été porté de Malte à Cologne dans la fête de Dieu. Ça a servi d'hôtel. Hein, d'hôtel.
Dans le rite, hôtel, hôtel. À la messe.
À la messe.
Ah d'accord, il a été utilisé comme un hôtel.
Oui. L'attention que c'était ça la situation des réfugiés.
Refugees are people who are properly defined in international law. That's the starting point. I think it is extremely important that if someone flees violence, conflict, human rights abuses, that we call this person what this person is. If someone calls a human being that is fleeing for their life something else, it may take away the protection, or it may create the image that this person is not a refugee, for example. And that's very dangerous because it actually dilutes what normally should be an entitlement, a legal entitlement to protection. And we need to make sure that that legal entitlement is safeguarded in today's world, because that's why this regime was created precisely in the historical context of the wake of the Second World War.
Du coup, il y a une population, enfin pas juste à Bonn, mais il y a une population très cosmopolite en Allemagne.
Les réfugiés apportent un petit peu au cosmopolitisme parce que ce sont des gens qui ont sauvé leur vie mais qui ne voulaient pas participer dans la culture allemande nécessairement. Le seul espoir est toujours que leur jeune génération fasse le parcours de l'éducation nationale, hein, de l'école, donc.
La génération suivante.
Pour s'intégrer.
Oui. Mais là, la personne qui est à l'entrée là, de Haus der Geschichte, mm-hmm, que j'ai rencontré tout à l'heure, m'a dit qu'il venait d'Afghanistan, par exemple.
Oui, il y en a beaucoup. Et Syrie, hein, des Kurdes.
Voilà, escalator, nous descendons au sous-sol de cette maison de l'histoire, Haus der Geschichte. C'est un passage, d'ailleurs, qui permet vraiment de rejoindre le métro. Hein. Mm-hmm. Par là, on rejoint, ça, c'est tout à fait réel. Et on a le tapis rouge. Donc, si on va prendre le métro, on a le tapis rouge. Donc, nous sommes au sous-sol. Et Christophe, nous sommes à côté d'un wagon. Un wagon plutôt luxueux. Et d'une voiture qu'on devine être une voiture officielle.
C'est ça. Hein, c'est la voiture du président ou du chancelier. Avec la standard, hein, les couleurs de la
République
fédérale. Mmh.
Mmh. Bon, la voiture, on peut faire un peu de pub. Hein. C'est une Mercedes.
Tout à fait.
Les voitures officielles étaient plutôt des Mercedes.
Mmh, oui.
Oui. Donc la voiture est prête à accueillir le chancelier qui va descendre donc du train. Et c'est le wagon officiel. C'est le vrai wagon qui servait à...
Wagon de salon ou de voyage.
C'est Deutsche Bahn. Mmh. C'est un wagon de la Deutsche Bahn,
oui,
qui servait pour le chancelier.
C'est ça. Mmh.
C'est luxueux, mais enfin c'est pas non plus...
C'était aussi pour des personnes qui travaillaient...
pour faire voyager Konrad Adenauer
depuis
1952.
Il voyageait dans ce wagon.
Même pour aller à Moscou?
Oui.
Ouais. Ah, oh, sorry. Et la salle, salle à manger, salle de réunion.
Salle à taper.
Un grand salon pour taper les discours aussi.
Oui.
Avec la radio, avec le téléphone à l'époque.
Il y avait tout.
Donc, et le wagon était accroché à un train oui, en fonction de la destination.
Oui, bien sûr.
Mm-hmm. Et il y avait une sécurité...
Faible à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de sécurité. On n'imagine pas. Aujourd'hui, ce ne serait pas possible.
Alors aujourd'hui, à l'heure où les présidents font les allers-retours dans la journée, hein, c'était autre temps. Hein.
La voiture est aussi celle du chancelier Adenauer.
On va quitter le musée de l'histoire. On va faire un petit tour dans le quartier, Christophe.
Oui, il faut viser le Rhin.
On prend l'escalator, on sort du musée de l'histoire et on va viser le Rhin.
Mais le Rhin, nous le viserons effectivement dans un prochain Suivez le Guide à Bonn, toujours en compagnie de Christophe Mühlberg.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Une douzaine de kilomètres, c'est la distance à parcourir en voiture ou en bus, c'est facile, pour rejoindre la maison de Konrad Adenauer à Rondorf, un petit peu plus au sud, toujours sur les bords du Rhin, où nous attend sa directrice.
Nous sommes à Rondorf, rue Konrad Adenauer, pour découvrir la maison Adenauer. Et nous allons la découvrir avec vous, Corinna Franz. Vous êtes la directrice de cette maison Adenauer, qui est dans ce village. Il y a de belles maisons. En cherchant la maison, je me demandais quelle maison pouvait bien être la maison d'Adenauer. Et puis, surprise, en arrivant devant ce bâtiment, qui est assez moderne, je m'attendais à une villa plus ancienne, plus traditionnelle, que ce bâtiment-ci, avec de grandes baies vitrées. Et je me suis dit, ah mais non, ce n'est pas la maison dans laquelle a vécu Adenauer, c'est probablement le bâtiment de la fondation Adenauer, enfin, en gros, la maison de la mémoire d'Adenauer, plutôt que la maison dans laquelle il a vécu. A-t-il vécu ici, Konrad Adenauer?
Oui, il a vécu ici à Rondorf, mais alors je vous souhaite le bienvenu.
Merci de nous accueillir.
Je vous souhaite le bienvenu ici à la maison Adenauer, qui est un site historique composé par deux parties. Et ce que vous voyez actuellement en entrant de la rue, c'est la partie moderne, c'est la partie de l'exposition permanente.
Il n'a pas connu ça, Konrad Adenauer?
Non, pas à l'époque. Cela a été construit pour le musée. Donc, c'est un bâtiment construit en 1975, donc presque 10 ans après la mort de Konrad Adenauer.
Donc, nous sommes à Rondorf, on n'est pas loin de Bonn, sachant que Konrad Adenauer est né, lui, à Cologne.
Oui, au bord du Rhin. Donc, il a passé 60 ans à Cologne. En 1933, les nazis l'ont chassé du poste de maire de la ville de Cologne. Il a dû quitter sa ville natale et il a cherché un abri en quelque sorte. Il a trouvé une petite maison ici à Rondorf, dans ce tout petit village au bord du Rhin. Une dizaine de kilomètres au sud de Bonn, et il s'est installé ici. D'abord, il a loué une maison pour lui-même et sa grande famille.
Et il avait une grande famille?
Oui, il avait 7 enfants. Quand ils ont réalisé qu'ils vont rester ici, à Rondorf, il s'est fait bâtir une nouvelle maison qui est devenue le site historique d'où je suis, donc la maison Adenauer. Et il a vécu dans cette maison les 30 dernières années de sa vie, donc de 1937 jusqu'à sa mort en 1967.
Donc elle est là, elle doit être tout près d'ici. Mais de l'endroit où nous sommes, on ne la voit pas encore.
Alors. Pas encore. Ça sera la grande surprise.
Vous avez le sens du suspense ici.
Die Bundesregierung wird in Zukunft in ihren Bemühungen um die europäische Integration und die Verteidigung der Freiheit nicht nachlassen. Sie wird sie vielmehr verstärken. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion widerspricht also nicht den Interessen des Westens. Indem die Bundesrepublik als eine eindeutig westliche europäisch orientierte Macht nun ebenfalls einen Vertreter in Moskau haben wird, wird sie dort die Stimmen des Westens um eine weitere verstärken.
Mais sinon, la première partie, on peut peut-être la parcourir. La première partie, c'est une exposition chronologique de la vie de Konrad Adenauer.
Tout à fait. C'est une exposition qui date de 2017, la dernière version. Et donc, on raconte vraiment la vie d'Adenauer du début jusqu'à à la fin. Et si vous voulez, on va voir quelques aspects.
Faisons quelques étapes dans la vie de Konrad Adenauer. Moi, l'image que j'en ai, c'est celle d'un homme vieux, puisque j'étais enfant quand il était dans les dernières années de sa vie. Donc, je peux dire que je n'ai jamais vu de photo de Konrad Adenauer jeune.
Oui, alors ici, vous pouvez le découvrir, le jeune Adenauer, ici, donc à gauche. Ce sont les quatre enfants de la famille Adenauer, donc... Adenauer, c'est le garçon, le fils cadet, c'est ça, le plus jeune. Le père Adenauer a été fonctionnaire prussien, donc il a fait la guerre de 1870-71 contre la France, autant que soldat dans l'armée prussienne. Après, il était fonctionnaire au cours de justice de Cologne. Et Konrad Adenauer, justement, il est né en 1876, hein, quelques ans après l'Empire allemand a été fondé par Bismarck.
C'est ça, donc il a grandi dans une époque où l'Alsace et la Moselle étaient allemandes.
Tout à fait. Ça vous indique aussi, si vous regardez la carte de l'Allemagne de l'époque, qu'Adenauer est toujours orienté vers l'Ouest. C'est important parce que pour Adenauer, le Rhin n'a toujours pas été une frontière, mais toujours un pont entre l'Allemagne et les pays de l'Ouest, notamment la France.
Ouais. Bon, mais c'est vraiment un Allemand de l'Ouest. Là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
Ah, jusqu'à aujourd'hui, alors il me prend plus de temps d'aller à Berlin qu'à Paris.
Ich bin sehr glücklich, Herrn Präsidenten Fini, den ich seit längerer Zeit kenne, hier in Bonn begrüßen zu können.
Les conversations que nous avons eues ce matin augmentent encore cette satisfaction. Elles me permettent de constater une fois de plus que l'entente franco-allemande est la clé de la cohésion occidentale, qui est elle-même le fondement d'une paix véritable.
Donc Adenauer est né à Cologne et il devient maire de sa ville natale pendant la Première Guerre mondiale. C'est aussi un Adenauer jeune à l'époque.
Ouais. Là, il a rasé la tête,
le crâne
et la moustache.
Et perdu. Donc on est dans la démocratie, dans la République de Weimar.
Donc il n'y a plus de moustache.
Plus de moustache, plus
la moustache,
la monarchie.
La moustache, c'est l'empereur.
Plus l'empire.
Plus d'empire, plus de moustache.
Oui, c'est ça.
Mais c'était un jeune maire, je suppose, pour l'époque.
Non, tout à fait. Alors, il avait 41 ans. À l'époque, c'était très, très jeune.
C'était un gamin.
Sensation à l'époque, pas aujourd'hui, oui. Mais...
Aujourd'hui, on peut être président de la République à 40 ans.
Tout à fait. Il voulait vraiment faire quelque chose à Cologne et transformer sa ville dans une des grandes métropoles européennes. On peut voir un peu ce qu'il a laissé à Cologne jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il a fait construire une ceinture verte autour du village qui existe aussi aujourd'hui,
oui.
Avec des stades là-dedans. Mais à l'époque, Adenauer faisait construire cette stade en vue d'organiser les Jeux olympiques de 1936 à Cologne. Et finalement, vous savez, les Jeux olympiques
étaient à Berlin.
À Berlin, donc, mais à cette époque, Adenauer n'était plus maire de la ville. Ce qui est intéressant, c'est que le maire de la ville de Cologne a déjà pensé à l'Europe. Parce qu'il s'est rendu compte qu'après la Première Guerre mondiale, qu'il faut une réconciliation des peuples, surtout de la France et de l'Allemagne, pour éviter une deuxième guerre.
Donc ça n'a pas complètement marché.
Non, malheureusement pas. On n'a pas écouté à Konrad Adenauer.
Attention, je vais vous parler sous le contrôle de Konrad Adenauer, il est derrière vous. Hein.
Oui.
Voilà, une silhouette. Hein. Il mesurait combien ?
1,85 m à peu près.
Ah, il était très grand.
Oui, très grand et toujours très étroit. Jusqu'à l'âge de 91 ans, il était toujours tout droit, tout debout.
Il était plus petit que De Gaulle.
Konrad Adenauer, 1,86 m, et Charles De Gaulle, 1,96 m. Terminons ce Suivez le Guide en périphérie de Bonn, à la maison musée de Konrad Adenauer à Rondorf, avec sa directrice Corinna Franz.
Mais ce qu'il faut ajouter aussi, c'était l'idée d'Adenauer, non seulement de la réconciliation, mais aussi de jeter des pans de l'industrie du charbon et de l'acier, déjà entre deux guerres.
Et c'est ce qui va être fondateur de l'Europe. On va retrouver effectivement l'acier.
La CECA.
Oui. La CECA.
On va le découvrir après, mais ce qui est vrai, c'est qu'Adenauer tenait déjà dans l'entre-deux-guerres à cette idée de faire une Europe unie dans le domaine de l'industrie de l'acier et du charbon. Adenauer a été nommé chancelier à deux reprises. Dans les années 20, donc entre-deux-guerres, il aurait pu devenir chancelier, mais deux fois, finalement, il a renoncé. Il n'a pas osé...
C'est de son fait.
Oui, ouais. D'abandonner son poste de maire à Cologne pour devenir chancelier à Berlin.
Parce qu'à l'époque, le cumul des mandats était interdit, à l'époque.
À l'époque, c'était devenir chancelier, ça sera peut-être pour 2 ou 3 mois. Tandis qu'à la tête de la ville de Cologne, il avait un mandat de 12 ans.
Qu'avait-il fait comme étude, Konrad Adenauer ?
Il a fait le droit.
Ah, d'études de droit. Ouais. Donc, allez, quelques marches pour nous mener jusqu'à une autre période, le national-socialisme.
Oui, c'est la salle des années 33 à 45. Hitler prend le pouvoir en 33. Adenauer est déjà visé par la propagande nazie. Alors Adenauer et le national-socialisme, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Adenauer, lui, il est chrétien. Il est, dès le début, un adversaire de l'idéologie nationale-socialiste.
Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Les nazis prennent le pouvoir aussi à Cologne en mars 1933. Adenauer est menacé de mort, vraiment, à l'époque. Il est limogé, il doit quitter son poste. C'est l'église catholique, c'est l'abbé Marie Allard.
Il y a des grands panneaux, je précise, il y a des grands panneaux photos. Hein. Donc, grandes photos qui montrent tout ça, qui illustrent tout cela.
Oui, vous avez la photo de l'abbé Marie Allard, abbé un monastère des Bénédictins, qui va aider Adenauer. Il se réfugie à l'époque.
Mais il va rester là tout le temps ?
Il y reste une année à peu près.
Une année quand même, dans un monastère.
Oui. Et après...
Il était chrétien, pratiquant, croyant, donc... Donc il a beaucoup prié, je suppose.
Oui, il s'est trouvé à son aise là-bas. Il a repris un peu de force intérieure. En 1935, la famille est revenue dans la Rhénanie. On a cherché une maison et on a trouvé une maison ici dans ce petit village Rhénorf. Et après, on a acheté ce terrain. C'était un ancien vignoble. Et Adenauer a fait construire cette maison.
Ils vont rester là pendant la guerre ?
Ils y restent toute la guerre.
Et avec aucun rôle ?
Adenauer s'est retiré dans le privé. Il a été arrêté et incarcéré à 2 reprises. D'abord en 1934, c'était à Berlin. Et ensuite en 1944, juste après l'attentat contre Hitler. Donc Adenauer a passé 3 mois en prison. Il se fait libérer, heureusement, mais tout le temps, il a été quand même menacé de mort.
Mais il était surveillé, je suppose, tout le temps ?
Non, oui.
Probablement,
oui.
La maison était surveillée tout le temps.
Oui, parce qu'on avait que c'est un
opposant,
adversaire du régime.
Il l'a rencontré, Hitler ?
Non, pas personnellement. Il aurait dû rencontrer en 1933, quand il était encore maire de la ville de Cologne.
Le recevoir comme maire, peut-être.
Oui, mais il n'a pas voulu. Il a dit non, je ne vous reçois pas à l'aéroport parce que vous ne venez pas en tant que chancelier, mais en tant que chef du parti. Et...
Mais chancelier, il aurait dû le recevoir.
Oui.
Il aurait été obligé.
Oui. Il ne s'est pas engagé dans la résistance. La résistance catholique aurait bien aimé avoir Adenauer, mais il a refusé parce que d'abord, il s'est senti responsable pour sa famille, pour les enfants. Et ensuite, Adenauer a dit « je ne peux pas m'engager dans la résistance parce que les nazis savent bien que je suis opposant, donc ça sera plutôt une menace pour la résistance. Il a beaucoup réfléchi. Tout à fait. On va le voir après. Et il a beaucoup jardiné.
Est-ce le vrai arrosoir d'Adenauer ?
Ah oui. Donc, il n'a pas inventé
l'arrosoir.
Mais ce truc-là, pour coudre les chaussettes, vous avez un trou dans les,
chaussettes.
Alors, vous mettez les chaussettes là-dessus et il y a une toute petite lumière là-dedans pour voir les trous. Hein, et puis, vous pouvez coudre.
D'accord.
Coudre. Ouais. C'est ça.
Mais aujourd'hui, on ne coud plus les chaussettes.
Ah non.
Et alors ça, c'est une brosse à tapisserie.
Oui.
Mais ça ne sert pas à ça.
Ça sert à tuer les insectes.
Avec une brosse à tapisserie.
Oui, bon. Qu'on met dans une sorte d'eau, peut-être. Et puis, on met de l'électricité là-dedans et ça devrait tuer les insectes. On met la brosse là sur les arbres, comme ça. Et puis, l'électricité, ça tue les insectes, mais c'est dangereux.
Ça peut tuer celui qui porte la brosse.
C'est ça. Moins pour les insectes que pour Adenauer. Les Américains réinstallent Adenauer à la mairie de Cologne en 1945, dans cette ville tout à fait détruite. Après, ce sont les Anglais qui l'ont limogé encore une fois. En octobre 1945, heureusement, on dirait aujourd'hui, parce que Adenauer avait le temps de se consacrer entièrement à la CDU. Ouais, donc, à faire... développer le nouvel parti politique fondé en 1945.
Ouais. Qui est le parti d'Angela Merkel.
Oui.
Toujours.
Ouais. Oui. Ouais. Et Adenauer va être le premier président de ce parti, donc le prédécesseur d'Angela Merkel.
Schon bei der Ankunft zeigt sich, dass richtig kalkuliert hat. Die Heimkehr der Gefangenen zählt für die Deutschen mehr als ein Vorbehalt in Sachen Völkerrecht.
Ich darf ihn sehr, sehr herzlich.
Adenauers Popularität erreicht in diesen Tagen ihren Höhepunkt.
Welches Maß an Arbeit und welches Maß an...
Nie waren ihm die Herzen seines Volkes näher. Bald rollen die ersten Züge. Der Weg führt durch die DDR. Dort wird die Heimkehr unterbrochen.
Nous allons entrer dans la grande salle, la salle de la chancellerie, on dit. On entre dans cette salle et on voit bien, nous sommes arrivés dans la démocratie d'après-guerre. Donc nous sommes arrivés à la République fédérale d'Allemagne. Donc Adenauer a été le premier chancelier pendant 14 ans. Et c'était Adenauer qui a réconcilié les Allemands avec la démocratie. L'ère Adenauer, c'est l'époque... soi-disant miracle économique.
Donc on voit la coccinelle, Volkswagen, la voiture du peuple. Hein.
Et figurez-vous que l'Allemagne a été en ruine, donc il a fallu tout rebâtir. Hein. Et ça aussi, c'est l'époque d'Adenauer.
C'est vraiment la reconstruction d'un pays qui s'est faite assez rapidement quand même. Mais et le général de Gaulle, quand va-t-il le rencontrer pour la première fois?
C'était en 1958. Le général de Gaulle, Adenauer, a invité de venir à Colombey-les-Églises. Donc c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés. Et Charles de Gaulle est venu à Rundorf ici à deux reprises.
On l'a vu à Bonn, mais il est venu même ici à Rundorf.
Oui, pour avoir le thé dans le privé avec le chancelier.
On peut voir une photo d'Adenauer et Kennedy. Donc en 63, c'est la fameuse visite de Kennedy. Quelques mois avant l'assassinat de Kennedy.
Oui, oui. Et vous voyez vraiment, c'est le grand-père Adenauer et vraiment très âgé. Et à côté, le jeune homme, vraiment, c'est peut-être comme son fils ou même le petit-fils d'Adenauer. Mmh. Donc ce sont presque deux générations entre les deux hommes d'État.
Ouais, mais ça, c'est 4 ans avant la mort d'Adenauer. Hein. Donc il a 87 ans par là.
Hein. Oui. Mmh. Si vous regardez là, en haut, là, vous voyez la vieille maison Adenauer.
Ah, ça y est, au-dessus. Puisque c'est vraiment un flanc de coteau, le terrain est en pente ici, il y avait les vignes, puis on est au pays des collines ici.
Oui, au bord du Rhin.
Donc la maison qu'a fait construire Adenauer et qui est vraiment très différente de celle qui est sur la rue.
Ça, c'est vraiment une maison qui date des années 30.
Ça semble être une grande maison, mais ce n'est pas un château non plus. Hein.
Ah non.
Des châteaux, il y en a ailleurs.
C'est assez modeste quand même.
Voilà. Mais lui n'habitait pas Adenauer au château de Drakensberg.
Non. Non, c'est vrai.
Mais alors, il y a quoi dans cette maison?
Ça fait aussi partie du site, on va le voir après.
On
va la voir après, oui.
Ah, d'accord.
Oui, ya, nous la découvrirons dans la prochaine émission, cette maison de Konrad Adenauer. Fin de ce Suivez le Guide au sud de Bonn. Danke sehr, Christoph Mühlberg und Corinna Franz. Folgen Sie dem Reiseführer, préparé avec la complicité de Anne-Catherine Klein. Marketing und Tourismus de la région de Bonn. Un guide conseillé, le petit futé Cologne et Bonn. Réalisation Roman Feocchio. Un site en français, bonn-region.de. Auf Wiedersehen, bis bald à Bonn.